RMC les grandes gueules.
À vous de choisir.
Si j'étais riche,
il va rébrouf,
tu sais qu'on a. Regardez cette comédie musicale qui s'appelle Un violon sur le toit.
Regardez, ma mère était fan de ce mec-là. Vous voulez me tuer?
Non, la fada, c'est chaud. Bibliothèque musicale.
Mais c'est notre culture générale, tu vois.
D'ailleurs, on y avait profité, au contraire.
J'ai aimé cette culture-là.
Tu vois, nous, on va de Ivan Rebroff aux trucs rock les plus modernes.
Mais
comme toi, on n'est pas des sectaires.
Moi, je suis pas sectaire, ça.
Si.
Que des artistes.
On confirme.
Des artistes droits, il n'y en a pas beaucoup.
Est-ce qu'on pourrait remettre un petit Michel Sardou pour nous
pour lui faire plaisir d'ici la fin de l'émission? Non, alors, pourquoi est-ce qu'on entend Ivan Rebroff dans son interprétation de If I Were a Rich Man, du violon sur le toit? Parce que les Français ont un joli bas de laine. C'est le sujet que vous avez choisi plus que l'atelier réservé aux femmes du côté de
Rennes. Parce qu'on s'aperçoit, grâce au Crédit Suisse qui a fait une enquête, que un Français sur deux possède plus de 128 000 euros. C'est deux fois plus que le patrimoine des Allemands. Alors, c'est un patrimoine médian. Ça veut dire quoi? Médian, ça veut dire que la moitié des Français possèdent plus que 128 000 euros, l'autre moitié moins. Voilà. Alors, bien sûr que les très riches font monter la partie de ceux qui sont au-dessus de 128 000 euros. Mais c'est intéressant, c'est se comparer avec les autres. Or, les Français, ils sont plus riches que les Allemands, ils sont plus riches que les Américains, ils sont plus riches que la plupart de nos voisins. Alors, on dit, c'est vrai, bien sûr qu'il y a des difficultés, mais on est un peuple plutôt fourmi, on met de l'argent de côté, on épargne, on n'a jamais autant épargné pendant la période du Covid, on a des livrets A, tout le monde a des livrets A, des PEL, etc. De l'argent de côté et de l'argent qui dort, surtout sur des comptes courants.
544 milliards d'euros.
C'est énorme.
En France.
544
ce qui fait,
milliards
si tu fais une moyenne, alors bien sûr, c'est une moyenne, parce que j'imagine sur le téléphone, dire, moi je m'en sors pas à la fin du mois, c'est pas vrai. C'est une moyenne, ça fait 18 430 euros par ménage si on répartit ça.
Ça fait surtout 100 milliards de TVA s'ils étaient consommés.
Voilà. Alors, faut aussi préciser qu'il y a plus de Français propriétaires qu'en Allemagne, par exemple. Donc, ça explique aussi l'écart avec nos voisins allemands.
Mais oui, non, mais c'est ça, c'est en fait.
Se plaint-on?
C'est déjà autour de la table.
C'est l'immobilier.
A plus de 128 000 euros de patrimoine.
C'est l'immobilier qui donne. C'est l'immobilier qui donne ces chiffres. Il y a combien de gens qui sont propriétaires depuis longtemps? Il y a combien de gens qui sont propriétaires par héritage?
La France est un pays d'héritiers.
Voilà, on va dire que c'est un indicateur. Voilà, c'est un indicateur pris comme ça qui peut faire sursauter des gens quand on sait le nombre de gens pauvres en France et la précarité. Mais c'est une donnée qui est à prendre en compte. Mais d'ailleurs, elle fausse un peu les choses parce que des propriétaires dans la précarité et des propriétaires avec bas salaires et des propriétaires à découvert tous les mois, il y en a plein. Il y en a énormément. Et d'ailleurs, l'impôt sur la fortune immobilière qui a remplacé l'ISF... Et parfois injuste parce qu'il y a des gens qui ont de l'immobilier qui vaut très cher parce que les zones où ils sont et du coup ils se retrouvent à payer l'IFI alors que finalement ils ont des
revenus parce qu'il est payé 36 fois quoi.
Le prix moyen d'un mètre carré pour un appartement est de 4800 euros en France contre 2959 euros en Allemagne.
Mais voilà.
Et il y a 60% de propriétaires en France, 63 même de ménages qui sont propriétaires de leur logement contre 50 chez les Allemands.
Propriétaire ou alors tu dois de l'argent à ta banque surtout parce que
mais ça doit être comptabilisé.
C'est facile de dire.
Oui, parce que je crois qu'ici autour de la table, on a tous un crédit.
Sauf Mourad.
Si, j'en ai.
T'as encore des crédits?
Bien sûr. Le château de Versailles, c'est quand même cher.
C'est au prorata de ce qu'il a comme lien.
Ça veut dire qu'en fait, il y a quand même de l'argent qui pourrait être remis sur.
C'est
le problème premier du pays.
Mais le problème, c'est quoi? C'est la peur, l'incertitude. Les gens ne savent pas où ils vont. Le Covid a quand même mis la trouille aux gens. Et il y a une autre façon de consommer. Regardez le cinéma. Même moi, je me posais la question. Avant, j'allais au cinéma assez facilement. Les enfants allaient au cinéma, etc. Les gens n'y vont plus parce qu'ils se disent pourquoi? C'est un billet de 50, 60 euros à 4. C'est tout de suite.
Zora, c'est un poil plus complexe que ça pour moi. Et je vais un peu déborder sur le prochain débat. Je pense que les gens thésaurisent essentiellement à cause de la peur de la retraite.
Oui, aussi.
Et que tant qu'on n'aura pas sécurisé les gens sur leur retraite, avec le coût que cela représente, on va le récupérer sur la consommation. Parce que tout cet argent qui dort n'est pas dans la consommation. Donc, donc ne rapporte pas à l'État, ne tourne pas à l'intérieur du pays, parce qu'il y a cette peur de la retraite. Oui, les gens se disent, la retraite est tellement, pour beaucoup de gens, elle est tellement ridicule que les gens se disent, je garde l'argent pour ma retraite.
Mais c'est la peur du lendemain tout court.
Ça pénalise la circulation de l'argent à l'intérieur du pays, donc ça pénalise l'économie du pays.
On
est d'accord, mais est-ce qu'il n'y a pas une mentalité française? On est quand même un peuple paysan au départ, on n'est pas des aventuriers, c'est-à-dire qu'on aime bien mettre de l'argent sous le matelas.
C'est vrai.
Et depuis toujours.
Il y a ça aussi.
On est quand même un peuple...
Il
n'y a pas longtemps, les jeunes rêvaient d'être fonctionnaires dans un sondage qu'on avait beaucoup commenté dans les grandes gueules. On veut la sécurité. On n'est pas des anglo-saxons.
Pourquoi, Olivier, c'est important ce que tu dis, c'est très important. Mais pourquoi? Parce que ici l'échec il est irréversible. Ouais. L'échec ne fait pas partie de l'expérience.
Tu as la lèpre.
Voilà, c'est-à-dire que ici on dit pas t'as échoué, tu vas rebondir, on te donne les moyens de rebondir. Ici, on échoue une fois, c'est fini. Donc c'est ça aussi, c'est pas une société ambitieuse et c'est pas une société qui a investi dans l'idée de créer de la valeur, de créer de la richesse et quoi qu'il arrive, on t'accompagne plusieurs fois dans la création de la richesse. Les gens se disent
on n'a pas le goût du risque.
Voilà, on n'a pas le goût du risque. Parce que c'est pas la culture, ça n'a pas été insufflé. C'est-à-dire, tu fais tes études, tu réussis, tu as un boulot, etc. Il ne faut pas te planter. Le boulot pendant 40 ans, c'est fini. Ouais, donc aujourd'hui, s'aventurer à se dire je vais prendre des risques, les gens se disent au bout du compte, si j'échoue, je suis stigmatisé, je m'en relève plus, j'ai monté une boîte, j'ai raté. Ouais. Ah bah vous avez raté, ah bah oui, ah bah quand même c'est rédhibitoire pour vous recruter. Au lieu de dire. Qu'est-ce que vous avez tiré comme expérience de cette expérience qui n'a pas marché? Alors voilà, comment on peut positiver?
Pour rater, et
on
a pas, essayer.
Voilà, ouais. On n'a pas cette culture-là, alors que les Anglo-Saxons l'ont. C'est ça, c'est comme le logement. Le logement ici, pour louer, c'est tout un pataquès. Il faut 4 fois le salaire, etc. Et puis pour relibérer le logement, si vous ne payez pas, c'est encore un pataquès. Chez les Anglo-Saxons, on loue. Et puis si vous ne payez pas, vous êtes dehors le lendemain. Donc en fait, tout est beaucoup plus simple et plus fluide.
Mais c'est parce qu'on a décidé en France que toute la fiscalité devait être sur le travail.
Ah bah en plus.
Tu vois, aux États-Unis, par exemple, en France, on a décidé, par exemple, qu'un salarié, lorsqu'il touche 1200, ça en coûte 2000 ou 2002 ou 2004 en fonction de la loi Fillon. Tu vois, aux États-Unis, et ce système impose un truc, c'est que quand tu vas dans un restaurant en France en général, ou quand tu vas dans un magasin, tu as un serveur ou tu as un vendeur, et tu attends, et il n'y a pas de service. Quand tu vas dans des pays qui ont fait un autre choix, l'argent circule autrement et la fiscalité circule autrement. Par exemple, aux États-Unis, tu vas dans un restaurant, tu as 10 serveurs, tu n'as pas du tout les mêmes prestations. Là où tu as besoin de monde, tu as du monde, parce que tu as un modèle qui est différent. Chez nous, tout est basé sur le travail, et ce qui fait qu'on a un modèle sclérosé où, effectivement, tu es certain, si tu as une grippe, d'être remboursé. Si tu as une maladie très grave, tu es certain d'être couvert. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que profiter de la vie, c'est une certitude. Avoir une maladie grave, c'est un peut-être. Enfin, je le souhaite à personne. Et tout est axé là-dessus dans le modèle économique français. Voilà pourquoi aujourd'hui, les gens thésaurisent. On a créé une espèce de crainte qui a été liée au départ au chômage.
Cet argent qui dort ne sert à rien, entre
guillemets. Cet argent qui dort coûte cher. D'où peut-être on devrait même envisager 2 degrés de fiscalité. Pourquoi est-ce que celui qui consomme 100% de ce qu'il gagne paye plus d'impôts que celui qui ne consomme pas 100% de ce qu'il gagne? Puisque par la TVA, par le jeu de la consommation, il va payer plus d'impôts. Donc il faudrait un modèle d'imposition qui incite à la consommation. Parce que plus tout axé sera sur la consommation, mieux le pays ira.
Bruno?
Non, mais Mourad a raison. En plus, notre société, elle est basée. Et je pense que le disque dur de notre société est toujours sur le fait que il y a un secondaire en France, c'est-à-dire qu'il y a une production industrielle. Oh, il n'y en a plus. Donc aujourd'hui, on devrait être une société de service. Et comme le dit Mourad, moi j'étais aux États-Unis, j'étais en Angleterre, effectivement. Tu rentres dans un commerce aux États-Unis, il y a quelqu'un qui est là pour te dire bonjour.
Oui.
C'est son rôle de la journée. Alors, il tourne, évidemment. Après, tu as des vendeurs partout. Et effectivement, ça fait de l'emploi. Et comme tu fais de l'emploi, tu génères après. Et
ça tourne, l'argent circule.
Exactement. Et pour résoudre tes retraites, c'est que l'emploi.
De la richesse, hein. Oui.
Pour résoudre ton problème des retraites, c'est que l'emploi. Hein. C'est pas d'aller nous foutre la retraite à 75 ans. C'est si tu fais travailler 90% de ta population.
Tu débordes sur l'autre sujet, là.
Oui, excuse-moi. Je me prépare, vu que vous m'avez foutu au mauvais endroit.
Tu vas en Italie, tu fais ton plein. Tu vas en Italie, tu veux faire ton plein. Il y a un mec qui te dit bonjour et c'est hyper agréable et qui te fait le plein et qui te met un petit coup sur les
esprits. Qu'on a connu dans les années.
Oui, qu'on a connu. Et ça, quelque part, je trouve que ça humanise le truc. Et puis surtout, ça fait circuler l'argent. Tu lui donnes quelque chose. Et puis...
Marion est avec nous. Bonjour Marion.
Oui, bonjour à tout le monde.
Alors, vous appelez parce que vous êtes gestionnaire conseil à la CAF, hein, la Caisse d'allocation familiale.
Ah, oui. Oui, c'est ça.
Alors, est-ce que vous trouvez que les Français gardent l'argent de côté, oui ou non?
De mon avis personnel, pour moi, je commence à mettre de l'argent de côté, oui. C'est pas forcément ce que j'avais envisagé au départ, exactement, parce que je vous entendais dire pour pouvoir investir des choses comme ça, voilà. Sauf que c'est vrai que j'ai peur de l'avenir, comme vous l'aviez dit tout à l'heure. Je me dis, j'ai 36 ans, j'ai commencé à travailler à 22 ans à la CAF. Maintenant, je sais pas tout de suite que je vais partir en retraite, et puis au niveau des salaires de la CAF, faut reconnaître que
36 ans, vous partirez normalement dans 45 ans.
Oui, voilà, c'est ça.
Avec les différentes.
Et mais ça veut dire quoi? Bien que je partirai pas avec les retraites aujourd'hui, mes parents.
Avec les différentes réformes, quand même.
Attention, Marion, ça veut dire quoi vraiment avoir peur de l'avenir? C'est vous pensez déjà à la retraite, c'est ça?
Oui, je pense déjà à ma santé, à comment ça va venir, parce que forcément, plus on va vieillir, plus je vais avoir besoin de services de santé. Aujourd'hui, moi, payer des impôts, ça me dérange absolument pas. Au contraire, je suis limite fière d'en payer. Et mais j'aimerais que ces impôts-là soient mieux distribués ou autre chose. Et derrière, je me dis pas. Ma retraite, si je veux derrière avoir un service correct à ma retraite, il faut que je commence à épargner aujourd'hui pour pouvoir utiliser les spécules que j'aurai de côté pour compléter ce que j'aurai.
Bien sûr, ben oui.
Voilà, c'est vraiment comme ça que je raisonne.
Je peux être un peu indiscret, Marion?
Oui.
Bon, donc ça veut dire, ça veut dire que
comme ça,
oui, c'est pas bon signe.
Elle est loin.
C'est quoi votre 06?
Vous faites pas ce week-end.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les mois vous mettez de côté. Et vous avez réussi à mettre combien de côté à 36 ans là aujourd'hui?
À 36 ans aujourd'hui, j'ai à peu près 50 000 euros de côté. Mais je vis en couple. Je vis en couple. Concrètement, j'ai voulu être propriétaire toute seule à 25 ans. Un an après, j'ai rencontré l'amour de ma vie et on s'est mis en couple. Et derrière, en fait, j'ai revendu mon appartement pour pouvoir acheter quelque chose. Et on met de l'argent beaucoup plus de côté tous les deux. J'ai un rythme de vie beaucoup mieux à deux parce que forcément, tout ce qui est frais, électricité ou autre, à deux, c'est moins cher que tout seul. Mais heureusement qu'il est là aussi. Et c'est ça aussi qui permet...
Comment il s'appelle ?
Benjamin.
Vous en êtes content ?
Ah bah oui.
Les Alain, c'est très bien.
Une question d'Olivier.
Marion, vous n'en avez pas mis, vous n'en avez pas mis
un. Si Benjamin dépensait tout l'argent que Marion met de côté depuis tant d'années.
Ou si c'était une passoire.
Ah oui, ça peut être ça aussi. Il faut trouver
un
bon
panier percé. Mais Marion, vous n'en avez pas mis un autre de côté au cas où, par prudence aussi.
Ça déborde. Il faut arrêter.
Vous êtes propriétaire aujourd'hui, vous remboursez votre crédit?
Oui, tout à fait, ouais.
D'accord, et vous remboursez votre crédit?
Oui, et après l'objectif vraiment ultime, ce serait de pouvoir mettre suffisamment de côté aujourd'hui pour rembourser ma maison.
Ouais, et en acheter une autre, peut-être si vous faites des enfants, tout ça, non?
Voilà, les enfants, c'est pas un projet non plus, parce que j'ai peur de ça aussi pour l'avenir de mes enfants, éventuellement.
Enfin, vous bougez, vous voyagez un peu, vous amusez.
Oui,
super.
Ne soyez pas
dans la sinistrose quand même, Marion.
Non, mais là, je reviens de vacances, donc vous voyez, tout va bien.
Vous étiez où? La rue en face?
Non, j'étais sur Beauziac, à 20 km de Marmande, du côté de Bordeaux.
D'accord.
En tout cas, Marion... T'as vu, hein, 36 ans, en couple, prudente, on met un petit peu de côté,
très structuré.
Pourquoi t'es à l'opposé, Bruno?
J'ai 50 ans, j'ai jamais eu plus, plus de mon compte, j'ai peut-être eu 5000 euros. Par contre, j'ai une collection de baskets, genre 100 baskets, j'ai 10 blousons en cuir, enfin voilà, moi je ne sais que vivre comme ça, moi.
Profitant.
Ouais, parce que j'ai failli mourir à 20 ans d'accident de moto, donc depuis, moi je pars dans, j'ai jamais pensé à l'avenir.
Oui, ne pas oublier que la vieillir est l'hypothèse optimiste de la vie, hein.
Oui, voilà, donc moi, depuis des années en plus, vu ce qui m'est arrivé après,
au Bataclan, ouais.
Ouais, mais vraiment, et moi, quand j'entends ça, je suis impressionné parce que moi j'ai jamais eu ces réflexes-là, et encore aujourd'hui, je peine à y penser. Et moi, ma retraite, j'y pense pas, quoi.
Et ça t'inquiète pas?
Qu'est-ce que je fasse, de toute façon, moi je vis et puis après on verra. Malheureusement dans ma famille, les hommes font pas des centenaires. Les femmes oui, mais pas les hommes. Donc je me dis au moins autant je profite maintenant.
Et les hormones femelles, tu vas essayer éventuellement?
Ouais, je vais peut-être apprendre. Mais c'est vrai que moi je me dis qu'à un moment donné, je mourrai pas avec un compte en moins et j'ai pas d'enfants, j'ai rien
à
léguer.
Bien sûr.
Même les histoires d'être propriétaire, je me pose la question, à quoi ça me sert à moi d'être propriétaire aujourd'hui?
T'es 50 ans, non?
Ouais, parce que non, puis même à quoi ça me sert vu que j'ai pas d'enfant, qu'est-ce que j'en fais?
Ouais, mais c'est dans l'imaginaire. Moi, je sais que j'ai eu la chance de gagner de l'argent. Je veux dire, j'ai eu la chance, je vais le chercher. Hein. J'ai pas,
oui,
pas
oui,
gagné
oui,
du loto.
Rien donné voilà. Non plus.
Et très vite, dans mon idée, c'était devenir propriétaire.
Oui, c'est vrai. Hein.
Oui, ma priorité.
Parce qu'en plus, quand t'as des enfants, c'est une sécurité. S'il m'arrive quelque chose, au moins, j'ai un toit. Voilà. Après, souvent, t'es à crédit, ton toit, donc il t'appartient pas vraiment.
Oui, puis si pour un moment de ta vie, au moment, par exemple, tu prends ta retraite, te dire, j'ai plus de crédit, j'ai plus rien à payer, et maintenant, l'argent qui me reste et l'argent de la retraite, ça devient du pouvoir d'achat.
À condition d'être en bonne forme.
C'est la seule chose que tu maîtrises.
Je regretterai peut-être à 65 ans, 70 ans quand je serai en retraite, mais franchement, moi je vois pas ça, enfin je pense pas comme ça, quoi. Ouais. Je peux faire vivre et après on verra.
Tu verras à 70 ans.
Ouais, je remercie, en tout cas, je remercie Marion de nous avoir parlé.
Elle était top.
En toute franchise, en toute transparence de sa vie, de comment elle met un petit peu d'argent de côté.